grande sublimation, c'est l'échographiste, puisque au fond, il est Coppelius, il est là et il va absolument voir à l'intérieur, mais pour le bien des personnes. C'est pas étonnant qu'à certains moments, ça lui revienne en pleine figure quand il y a une malformation. Et ouais. Il tombe sur une malformation, c'est ce qu'il fallait pas voir, mais c'est ce qu'il voulait voir. Il ne va pas commencer à faire de la psychiatrie dans une salle d'échographie, bien entendu. Mais enfin, quand même, il peut réaliser et comprendre certaines choses. Et il peut, effectivement, entendre aussi certaines choses. Et alors, bien entendu, en tant que psychiatre, on se perfectionne beaucoup dans un bon nombre de domaines, et notamment dans tout ce qui est la base, les préalables, de tout ce qui va être par la suite l'interaction entre la mère et le bébé. Une femme qui va être confrontée à ces échographies va vivre un certain nombre d'étapes dans sa vie fantasmatique qui est importante de connaître. On a pendant longtemps parlé de tout ce qui est l'élaboration du fantasme de l'enfant imaginaire. À une époque où, effectivement, on ne disposait pas d'un certain nombre de moyens d'aller faire une investigation tout à fait particulière. Actuellement, une femme va vivre toujours cette élaboration de son fantasme d'enfant imaginaire, mais avec des aspects tout à fait directs, vécus, vus, qui sont ceux de son échographie. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'elle imaginait. Mais quand même, par exemple, elle va rechercher certaines images très particulières quand elle va voir une coupe de du cœur de son bébé qui lui montre la vie profonde de cet enfant.
Le cœur.
Deuxièmement, quand on arrive à voir le profil.
Un profil vu normal. Voilà, on va faire une photo pour votre mari.
Un faux profil du reste, mais enfin quand même, qu'elle prend pour tel, qui montre son nez, son front, sa bouche et les mouvements de sa bouche. Donc ici, il y a une sorte de remaniement de son fantasme d'enfant imaginaire.
Je crois qu'on ne peut comprendre l'image que si on pense l'image non pas comme un fait, une chose, que ce soit l'image psychique ou l'image matérielle, mais on ne peut la comprendre que si on la comprend comme un processus. Et la caractéristique de ce processus, c'est d'être un premier écran pour la pensée et encore une fois un écran dynamique, c'est-à-dire un écran qui met en route un certain nombre d'opérations psychiques. Et ces opérations psychiques mises en route par l'image vont servir de lien, de ciment dans une communauté. Eh bien, l'image échographique fait, elle aussi, appel de communauté. Et elle fait appel de communauté autour de quelque chose qui est doublement mystérieux, puisque d'une part, c'est l'intérieur du corps, mais en plus, c'est l'intérieur du corps de ce qui précède la mise au monde, la naissance, ce qui précède l'apparition d'un être humain qui va s'ajouter à tous les êtres humains qui existent déjà dans l'univers et qui ont déjà existé.
Ça peut faire plus ou moins peur. Hein.
Moi, je pense que, selon la métapsychologie, le fantasme surgit à partir des forces pulsionnelles qui vont être ensuite aménagées par le subconscient et le conscient. Or, pour la femme, ce qu'on lui répète depuis qu'elle est petite, c'est que c'est un être castré, et on peut se référer du reste à toute l'œuvre freudienne et des successeurs de Freud, et une seule chose va la réparer en quelque sorte et lui donner une prévalence, c'est quand elle sera enceinte et qu'elle aura en elle quelque chose qui est très mystérieux, c'est la possibilité de fabriquer un bébé. Donc, c'est pour elle, à ce moment-là, une sorte de plénitude, de revanche, d'anti-castration, et qu'elle va vivre pendant toute sa grossesse. Or, l'échographie vient pour dévoiler cela, c'est-à-dire qu'on va enlever tout ce mystère et on va le regarder et on va voir du reste si elle fait correctement son travail. Donc je crois que l'échographie est un acte qui, par essence, est un dévoilement et une sorte de mise à plat de cette possibilité qu'a la femme. Du reste, il y a un élément que je donnerai par comparaison, puisque ça a été utilisé comme expression, c'est-à-dire de profanation. Or, le tableau qui a été toujours représenté, si on s'y réfère, c'est la profanation de l'hostie, qui va être livrée à toute la populace. Et je crois que l'échographie livre le contenu du ventre maternel et ce procédé à toute la populace.
En ce qui concerne l'image échographique, l'image non commentée sera oubliée. En revanche, l'image commentée chaleureusement ou sadiquement par l'échographiste restera positive dans un cas, menaçante dans l'autre, mais c'est parce qu'elle aura été perçue, cette image, dans un certain contexte affectif, qu'elle restera dans ce contexte-ci ou dans ce contexte-là.
On aperçoit, non, ou pas ?
Là, non.
Du dessous, voilà, je vois très mal.
On voit que la lèvre.
D'accord.
Mais, hop, voilà.
On est vite, très bien. Avec les narines.
Mais non, on a un effet d'arrêt normal et mignon.
C'est déformé, toujours.
C'est dans l'eau, alors c'est différent comme
fait le
contraste. Beau. Les oreilles, c'est pareil, on a toujours l'impression qu'elles sont décollées, alors qu'elles ne sont pas décollées. Oh, les dents, hein, c'est
oui.
Vraiment l'heure de la
franchement, sieste. Sinon, on le dérange, hein, mon ami.
Simplement, l'image échographique, montrée ou donnée, peut devenir le symbole d'un très grand bonheur, ou au contraire d'une menace terrible ou d'un très grand malheur, parce que cette image aurait été élue comme symbole en fonction du message qui l'aura accompagné.
Je crois qu'à la première ou la deuxième échographie, donc de ma deuxième grossesse, vous avez tout de suite employé des mots assez réconfortants. Donc là, ça m'a aidé, ça.
C'est le discours du médecin qui permet que l'on trouve cela beau et joli, précisément parce que l'élément traumatique a été surmonté du fait de la relation des parents à l'échographiste.
Moi, je comprends rien à l'image, hein. Je la vois pas, je sais pas ce qui se passe. Donc, c'est en fait, ça se passe dans le regard du médecin qui nous renvoie un petit peu ce qu'il y a à voir et ce qu'il y a à comprendre, en fait. Hein.
Je pense que c'est toute la différence qu'il y a entre une image brute et une image civilisée, enfin, ou entre un fait brut et un fait de civilisation.
C'est-à-dire qu'effectivement, le médecin veut voir si tout est normal et la maman demande si tout est normal. Mais on parle probablement pas du tout des mêmes choses. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une vérification presque anatomique, si vous voulez, presque au sens de l'autopsie, le mot est un peu fort, puisqu'on est dans le vivant, c'est de la biopsie, mais enfin bon. On va quand même parler de squelette, on va quand même parler d'organes, on va quand même parler de mesures de flux, etc. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est là, tout vibrant d'émotion et dans son imaginaire, et qui a dans sa tête une belle histoire, comme ça, un projet formidable, dont on ne va pouvoir montrer évidemment pas grand-chose sur nos écrans.
Elle en voit bien. C'est grand déjà.
C'est grand.
Cette petite chose qui est là, qui bouge, on dirait, parce qu'en fait, les toutes premières images, il faut un peu les interpréter pour se faire plaisir, parce qu'elles sont pas évidentes. Ça m'a fait peut-être un peu basculer. Ça a été dans un autre monde que le mien. C'est un monde que je connais en tant que sage-femme, les échographies, la formation que j'ai reçue et le quotidien que je vis. C'est pas l'échographie, c'est on en parle tous les jours et on en voit tous les jours. Et tout à coup, quand c'est sur soi, on s'aperçoit qu'on n'est plus vraiment sage-femme et qu'on commence à être future maman, même si au tout début c'est pas net.
C'est ce qui va se passer entre ces deux tensions. qui est potentiellement très explosif, parce que le médecin a très peur de se tromper et que le risque médico-légal est quelque chose qui fait peur, il y a aussi le souci de bien faire. Et puis de l'autre côté, il y a un désir de rencontre, et qui ne sera probablement pas du tout satisfait par l'échographie, mais que l'échographie pourrait contribuer à faire vivre un petit peu. Et c'est ça une des grandes pistes qu'on pourrait essayer de développer.
Créer un être vivant, pour beaucoup de femmes, ça répond alors à des attentes et à de grandes inquiétudes. Très souvent, sans raison évidente la plupart du temps, elles ont eu beaucoup de craintes. Elles ont pensé qu'en raison de problèmes hormonaux ou d'une interruption volontaire de grossesse dans leurs antécédents ou, je ne sais pas, de douleurs pelviennes qui sont survenues là au début de leur grossesse, en fait, qu'elles étaient incapables d'avoir un enfant. Il y a aussi, d'un seul coup, la visualisation d'un être à part, d'un être singulier. Et elles disent, j'ai réalisé que c'était mon bébé, qu'il y avait un petit être en moi, et j'ai commencé à me projeter dans l'avenir avec lui.
J'ai été à plusieurs reprises surpris par des témoignages paternels en faveur de la prise de conscience de l'enfant et de la grossesse. Et en particulier, quelquefois, des prises de conscience violentes, c'est-à-dire ciel, il y a quelqu'un chez moi, il y a un locataire là où je croyais que c'était mon territoire privé, le territoire conjugal, et là où dans la sexualité conjugale j'avais pris l'habitude de considérer que c'était mon espace. Et ça peut être intéressant d'imaginer que dans cette confrontation il y a toute l'alchimie complexe du passage du 2 à 3 et de la triangulation en devenir. On pourrait schématiquement opposer un père qui sera prêt à négocier à l'égard de ce locataire de l'espace maternel et un père qui, à contrario, lui fera preuve de peu d'humour à l'égard de cet intrus et montrera dès les premières échographies une grande rigidité à l'égard de sa possibilité à trianguler avec cet enfant et à l'accueillir.
J'ai montré peut-être 5 minutes le bébé, les bras, les jambes, bon, il a vu bouger, etc. Et je l'ai revu en consultation 15 jours après, complètement transformé. Mais vraiment, elle me dit merci beaucoup, elle m'a remercié 4 fois d'avoir montré le bébé à son mari. Le mari avait complètement changé d'attitude vis-à-vis d'elle, tenait bien plus compte de la grossesse, commençait à toucher son ventre, à parler du bébé, etc. Donc elle était très contente.
On réalise en fait que à partir du moment où on le voit en tant que père, on réalise vraiment à partir d'une échographie. Sinon c'est vrai qu'au début, bon, ça s'arrondit, mais ça fait, on n'y prête pas beaucoup plus attention, quoi. Et puis à la première écho, qu'on a été faire la première écho, ouais, là on se dit, bon, il y a quand même quelque chose. Quoi. C'est là où on réalise vraiment.
Alors, c'est vrai que les psychanalystes, développementalistes, nous ont appris récemment combien est-ce que c'était une erreur que de positionner l'œdipification dans une zone tardive du développement, telle que nous l'a proposé le fondateur de la psychanalyse. Et que il est plus pertinent aujourd'hui d'imaginer que cette triadification est un processus extrêmement lent et précoce. Et on pourrait aujourd'hui, à l'échelle de notre temporalité périnatale, imaginer que l'échographie est très précisément un point d'ancrage fondateur de cette mise en place spatiale. J'ai pour conviction que le cadre échographique est un cadre qui provoque une effusion psychique tout à fait considérable. On peut peut-être dire que pendant cette période prénatale du devenir parent, a fortiori pour une primipare et un primipère, il y a une réviviscence, une réanimation, une réédition des conflits structuraux, fondamentaux. On retiendra, bien sûr, de façon tout à fait immédiate, les conflits névrotiques. On parlera de réactivation de la névrose infantile. Mais je crois qu'en la matière, il va nous falloir être extrêmement vigilants à ne pas laisser en chemin les conflits, justement, archaïques, qui seront pré-œdipiens et qui se situeront dans la genèse de l'individu, dans sa partie la plus primitive. Et je pense en particulier à l'âge du nourrisson, où l'enfant a son corps pour s'exprimer, pour communiquer avec l'extérieur, et où probablement le langage, la symbolisation n'a pas ce qu'elle peut... elle peut produire plus tardivement. Je crois aussi que cette transparence psychique, on peut la qualifier en disant qu'elle correspond à une reproduction potentielle d'un certain nombre de traumatismes, et en particulier de ceux qui sont enkystés et qui sont mal cicatrisés. Dans le meilleur des cas, les blessures du passé ont eu une issue heureuse, mais on le sait bien, il y a un certain nombre de blessures qui sont caractérisée par le fait qu'elle reste encore extrêmement active et déstructurante. Mon idée est que, justement, dans le cadre de cette effusion psychique propre au cadre échographique, tout est en place pour que, sur le fond de cette réviviscence psychique déjà inhérente au fonctionnement psychique routinier de la grossesse, il y ait une surenchère, une mise à la puissance 2 de ce fonctionnement psychique avec le cadre échographique.
Cet examen, il va falloir le conduire très méthodiquement, et pendant toute la durée de l'examen, on peut considérer que si on avait affaire à un objet, il y aurait une espèce de liste d'éléments précis qu'il faut vérifier les uns après les autres, et l'objet ne réagirait pas à l'examen, donc on aurait, si j'ose dire, l'esprit libre pour faire les vérifications les unes après les autres, et l'examen aurait un temps précis qui consisterait à commencer par le début, finir par la fin, et dire voilà, ça va ou ça va pas, d'une manière très technique comme ça.
Donc les structures cérébrales, c'est bon, moi j'ai le cerveau.
Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, et c'est là que ça devient intéressant, si on veut bien parler des aspects psychologiques, parce qu'il va se passer des quantités de choses entre le médecin et la personne qui subit cet examen. Et c'est très particulier à l'échographie, parce qu'il y a une espèce d'instantanéité qui fait que la femme attend la réponse pratiquement avant qu'elle ait commencé à poser la question.
L'échographie est une image qui mobilise tellement, qui focalise sur elle, tellement d'éprouvée jusque-là sans représentation, tellement d'attente jusque-là non précisée, que la mère est forcément amenée à se tourner vers les gens qui sont autour d'elle, vers le médecin qui est là, pour guetter dans son regard la confirmation que l'autre y voit bien ce qu'elle y voit. Mais l'important est qu'elle ne perçoive pas un démenti de ce qu'elle perçoit dans l'image, de ce qu'elle voit dans l'image. Elle n'attend pas vraiment que le médecin explicite pour elle ce qu'elle y voit. L'important est beaucoup plus que sa capacité de rêverie personnelle ne soit pas empêchée par le fait que quelqu'un d'autre puisse porter sur cette image qui la concerne un autre regard qu'elle. Donc je crois que c'est beaucoup moins un regard qui attend une symbolisation verbale, on pourrait dire, qui attend des explications, c'est moins un regard qui attend des explications qu'un regard qui attend une non-contradiction. C'est la non-contradiction qui est attendue. Le fait que la mère ne soit pas contrariée dans le désir qu'elle a d'utiliser cette image comme premier écran pour sa pensée de ce qui lui arrive, pour sa pensée du bébé en devenir.